il y a un peu ce, que, ce dont vous nous avez parlé hier, qui est la politique du frigidaire, puisque j'ai cru comprendre que la plupart de vos œuvres, en vérité, sont au frigidaire et elles peuvent être réchauffées selon telle ou telle évolution climatique.
Elles ne se dégradent pas,
en tout cas. peut-être, Jean-Pierre Pratier, tu souhaitais intervenir pour lancer les questions de ça.
J'aurais Pierre, deux questions sur deux sujets très différents à partir de ce que vous venez d'exprimer. Premièrement, dans la question du rapport entre votre pensée, votre travail de compositeur et la philosophie, il y a un mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure, ni par François, ni par vous, c'est le structuralisme. Or, quand on regarde penser la musique aujourd'hui, en fait, à côté des logiciens et mathématiciens que vous citez, il y a un nom de quelqu'un qu'on peut tout de même assimiler à un philosophe, même si c'est un anthropologue, il y en a un seul, c'est Lévi-Strauss. Que vous citez, je ne sais plus la phrase par cœur, mais du point de vue de quelqu'un qui, dans les objets qu'il décrit, il s'agit des mythes bien sûr, regarde surtout les relations entre les parties et le fait que le résultat final soit quelque chose qui transcende l'organisation formelle de ces parties. Alors, c'est vrai que, et c'est même un lieu commun à votre sujet, on pourrait dire à la limite, mais je l'ai déjà lu, vous êtes un compositeur structuraliste. Même, je pense par exemple à Serge Garand, qui a été votre disciple premier au Québec, qui disait « Je suis un compositeur structuraliste ». Donc il y a une espèce d'étiquette là. Bon. Alors, on voit bien par exemple « Relevé d'apprenti » et publié dans la collection telle qu'elle. On est allé vous chercher pour publier ça dans une collection qui, à l'époque, était une des collections où la pensée structuraliste se manifestait, quelle que soit la forme qu'elle prenait. Alors, au fond, ma question, ce serait la suivante. Est-ce que, pour reprendre une expression qui vous est chère, est-ce que votre rencontre avec le structuralisme, elle se fait par volonté ou par hasard? Je veux dire par là que, est-ce que vous avez le sentiment, surtout avec la distance, parce que, comme a dit Lévi-Strauss lui-même, le structuralisme est mort en 68. Bon. Est-ce qu'avec la distance, vous avez le sentiment que vous développiez un certain nombre d'attitudes compositionnelles reliées à une certaine conception de la musique? Par exemple, vous avez dit dans l'esthétique et les fétiches, la musique est un art asémantique, l'insistance sur les jeux de formes, etc. Bon, et là, on pourrait citer Weber, Stravinsky, dans cette perspective-là. Est-ce que c'est au fond ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre entre votre conception personnelle profonde de la musique au moment où vous élaborez votre langage avec d'autres courants qui se manifestent par ailleurs en littérature, dans l'analyse des mythes, etc. Ou est-ce qu'il y aurait eu à un moment donné, parce que vous n'êtes pas un analphabète, vous lisez un petit peu les gens à droite et à gauche autour de vous, est-ce qu'il y aurait eu tout de même, et c'est ça qui est intéressant avec la citation de Lévi-Strauss, à un moment donné une je ne dirais pas une influence, mais quelque chose que vous auriez perçu comme une rencontre entre ce que vous pensiez vous-même comme compositeur et ce que pensaient d'autres compositeurs, d'autres penseurs dits structuralistes à la même époque.
Je crois que c'est surtout une coïncidence parce que tout le monde a pensé un peu, non pas tout le monde, mais enfin un certain nombre de personnes ont pensé de la même façon à la même époque, tout simplement. Pour moi, c'était ceci. Même j'ai donné à ce moment-là, c'était pas en 68, moi c'était avant, en 52, j'ai écrit des pièces pour deux pianos qui s'appellent Structure, dont le titre est Structure. Pourquoi? Parce qu'en effet le terme était, je dirais non pas à la mode, mais enfin c'est un terme qui était très important dans le langage à l'époque et dans les écrits aussi. Oui, j'ai lu en effet Lévi-Strauss. À l'époque, il y a eu un malentendu avec Lévi-Strauss. Il allait aussi loin que Schoenberg, mais pas plus loin, si je peux dire. Et il y avait, disons, une sorte de refus de sa part. Je crois que Célestin de Liège avait répondu, d'une façon, c'est ça, d'une façon assez polémique même à l'époque. Et je crois que le seul qui ait fait de l'usage de Lévi-Strauss, c'est Berlioz, dans Symphonia, tout simplement, qui a utilisé les textes de Lévi-Strauss pour l'agréger à sa musique, simplement. Moi, j'ai bien sûr que j'ai lu, c'était très, très important, le Cruel Cuit en particulier, c'était très important, et en même temps, pour moi, ce qui était important, c'était, oui, tout l'environnement, tout ce que je lisais à l'époque, et en effet, mais c'est plutôt une coïncidence, et je dirais, c'est une coïncidence qui se passe sur les lieux mêmes où on vit. Mais je cite toujours une coïncidence de deux personnes qui se sont complètement ignorées, qui ont eu une trajectoire absolument parallèle. c'est Mondrian et Weber. Les deux ne se connaissaient absolument pas, ni l'un ne connaissait ce que l'autre faisait réciproquement, si je peux dire. Il n'y avait donc aucune cohésion personnelle. Et on voit que l'évolution de Mondrian depuis 1910 et jusqu'en 1930 en particulier, reflète exactement, mais littéralement, l'évolution de Weber dans la même époque. Donc je pense que, oui, on parle toujours en se moquant un peu du Zeitgeist, mais je pense que quand même, ce Zeitgeist existe et qu'on est perméable, même si superficiellement on est perméable à ça, et on réagit, je ne sais pas si vous dire comme à un microbe, mais en tout cas, on réagit à cette atmosphère, certainement d'une façon beaucoup plus spontanée que réfléchie.